Alors on va parler des sorties, on va commencer par le nouveau film d'Emmanuel Berco qui s'appelle « De sang vivant » avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel, un homme condamné par la maladie, la souffrance d'une mère face à l'inacceptable dévouement d'un médecin et d'une infirmière pour les accompagner une année, quatre saisons. C'est un mélo assumé mais qui s'encombre, et c'est dommage, d'artifices scénaristiques, un fils qui revient au nid-deal avec l'infirmière au lieu de se concentrer sur la maladie et le rapport à la mère. Deux grands acteurs, certes, face à face, Deneuve et Magimel, plus un troisième qui emporte le morceau, c'est le docteur Gabriel Sarah, cancérologue dans la vraie vie.
Oui, alors le problème, effectivement, ce sont les annexes de l'hôpital, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'effectivement, le récit, par exemple, de l'activité professionnelle de Magimel, qui est prof de théâtre, avec une métaphore quand même un peu lourde sur la transmission, sur l'intérêt de la vie, alors qu'il est lui-même en train de la perdre.
Bon,
oui, assez lourde quand même. Et puis alors ce Gabriel Sarah, véritable cancérologue, vous le disiez, qui joue le docteur Aidé dans le film, peut-être côté non, on aurait pu faire un petit effort. Et on sent que Berco est absolument fasciné par ce médecin, à juste titre, parce qu'il est d'une humanité et d'une empathie extraordinaire. Mais alors on se dit que la fiction en souffre, c'est-à-dire qu'à force d'insérer tant de documentaires avec ce personnage dans le film, la fiction en souffre. Et pourtant, vous le disiez, il y a quand même deux sacrés monstres, Deneuve et Magimel, les deux en majesté, les deux qui effectivement, combien sont absolument parfaits dans leur rôle, mais ça ne suffit pas à faire de son vivant un vrai beau mélo d'ailleurs.
L'événement de Audrey Diwan, Lion d'or à Venise. D'après le roman d'Annie Ernaux, France 63, Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d'avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s'engage seule dans une course contre la montre. Pourquoi aller voir un film qui nous raconte 60 ans après une histoire d'avortement, désormais, enfin depuis 75, légalisée en France? Principalement, et bien pour se souvenir de ce que les femmes qui à l'époque ne voulaient pas d'enfants ont dû subir dans la clandestinité. Et ce souvenir traverse tout le film, dans la tête de sa protagoniste, solitaire, même auprès de ses amis, dans sa souffrance. Sans artifice de mise en scène, cette course contre la montre, les jours défilent dans l'attente, le secret et le manque d'argent, aussi pour cette jeune femme issue d'un milieu populaire et dont l'ambition, un autre obstacle à franchir, est de devenir écrivain. Un film qui donne à voir et ressentir, comme l'a écrit Annie Ernaux, une expérience totale du temps, de la morale et de l'interdit de la loi.
Oui, ben j'aurais quelques réserves. Ce qui, dans le concert de louanges, est permis, en quelque sorte. D'abord, effectivement, c'est assez curieux, quand même, de prendre un sujet politique, mais dans les années 60, alors que la remise en cause du droit à l'avortement, pas en France, n'est évidemment pas à l'ordre du jour, mais dans d'autres pays.
Mais on y pense, entre les lignes, dans le film.
Pourquoi entre les lignes? Il faudrait peut-être
non,
y penser.
Non, en creux, c'est important, un film, c'est oui. Ce qu'on a dans la tête et ce qu'on voit aller.
Certes, mais les années 60 sont bien loin, alors que les années 2020 sont là, et que le droit à l'IVG n'est pas, évidemment, une chose totalement commune. La deuxième chose, c'est l'adaptation. Quand on adapte un roman, on fait un travail, c'est vrai. Mais pourquoi, par exemple, inventer deux personnages secondaires, deux amis qui n'existent pas dans le roman de Annie Ernaux ou dans l'écrit d'Annie Ernaux, et qui du coup effectivement sont des contrepoids absolument artificiels. Mais pour moi le plus important, c'est que le film s'appelle L'événement. Alors certes, c'est l'événement de l'avortement dans pour Annie Ernaux, mais c'est beaucoup plus l'événement de l'émergence de l'envie d'écrire, de la nécessité d'écrire. C'est ça que raconte aussi et peut-être d'abord Annie Ernaux. Elle a des phrases qui font que l'avortement est presque minoré dans son récit par rapport à la découverte que c'est pour elle d'écrire et de commencer à écrire et de voir combien l'écriture va lui permettre de vivre. Voilà. Alors, on peut aller voir L'événement, bien entendu, mais il faut certainement aussi lire le livre d'Annie Ernaux.
Son non-désir d'enfant est un désir d'autre chose, comme l'a écrit si bien une analyse de Libération. Au crépuscule, c'est un drame historique de Šarūnas Bartas. 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un village isolé en Lituanie, alors que la misère ne laisse place à aucune liberté, le jeune Unte et le mouvement des partisans dans lequel il s'est engagé doivent faire acte de résistance face à l'emprise de l'occupation soviétique.
Ouais, c'est un film tout en brun et en gris, hein, dans les teintes, pour parler de l'occupation, de l'asservissement d'un peuple. de sa résistance aussi, bien évidemment, avec, vous le disiez, la figure centrale de cet ado, Unte, qui traverse tout le film et qui lui donne littéralement sa complexité, parce qu'il devient notre regard sur les choses et les gens, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce regard n'est pas juste fait, effectivement, d'une sorte de regard noir et blanc sur la réalité, c'est beaucoup plus contrasté que ça, et le cinéma de Bartas, qui est un grand cinéma d'esthète, en quelque sorte, dit beaucoup plus de choses, du coup, sur la réalité, au-delà de la douleur, au-delà de la tristesse, au-delà de la difficulté, il y a comme une sorte de grâce intense, et c'est ce personnage-là qui nous l'a fait passer, ce haut crépuscule est magnifique.
Suprême, c'est le biopic musical donc sur l'ascension de NTM, le duo formé par Joey Starr et Kool Shen, des premiers concerts en 89 jusqu'au début de la gloire en 1992. Un biopic supervisé par NTM soi-même, donc correctement politiquement incorrect. Bref, une partie de l'histoire du hip-hop des années 90 en France, plutôt juste sur leur background, l'écriture, la scène, un peu moins sur l'émotion.
Oui, c'est-à-dire finalement le paradoxe, c'est un peu ça. C'est est-ce que c'est bien raisonnable de faire un film aussi sage sur NTM? Je suis pas certain.
Enfin, bravo aux deux jeunes acteurs, Sandor Funtek et Théo Christine. Liban 1982, historique fantastique de Walid Mouanès. Pendant l'invasion du Liban par l'armée israélienne en 82, dans une école privée en périphérie de Beyrouth, Wissam, 11 ans, tente de confesser son amour à l'une de ses camarades de classe.
Ouais, c'est un sacré intéressant premier long métrage, autobiographique, il faut le dire, avec la guerre en toile de fond, la guerre du Liban en toile de fond, mais jamais extrêmement présente à l'écran, pour mieux faire passer les émotions des protagonistes entre l'école, Beyrouth, le monde des adultes et celui des enfants, les relations amoureuses qui commencent effectivement à frissonner. Cet aller-retour permanent entre les rêves et la réalité, entre le bruit des bombes, mais uniquement le bruit des bombes, puis l'histoire avec un grand H et les histoires, le metteur en scène s'en tire bigrement bien.
Lui, il a 83 ans, il est incroyable, c'est Ridley Scott, il a sorti Le Dernier Duel, là il sort à House of Gucci. Ce biopic, donc, sur cette marque reconnue et admirée dans le monde entier. Saga familiale, thriller, romance, tout ça tient dans ce pudding de 2h37. Un Dallas dans la mode, amour, gloire, jalousie, trahison, vengeance. Le tout dans un excès de décors somptueux qui écrase la mise en scène, qui est somme toute assez classique et pas très inspiré dans le genre biopic des Borgia en toc. On s'ennuie pas mal. On rêve même à ce qu'un Scorsese en aurait fait. Reste trois étonnantes prestations. Lady Gaga en premier, Jared Leto et Al Pacino. Tous les trois surjouent comme s'ils avaient compris que c'était la seule chose à faire dans cette histoire invraisemblable. On termine avec une reprise, l'incompris, Luigi Comencini.
Oui, je pense que Pierre Ardisi, vous l'aviez vu en 1968, évidemment, l'incompris Luigi Comencini, mélo parfaitement assumé. Préparez vos mouchoirs, mais dans ces conditions, c'est tellement bon qu'on en redemande.
Laurent, on n'a pas eu le temps, mais j'ai envie de passer parce qu'il n'est pas très long, cet extrait encore du Arditi dans Adieu Berthe. Adieu Berthe de Bruno Podalydès, où vous jouez le père de Denis Podalydès, légèrement Alzheimer.
Papa, cher ami. Non, papa, c'est moi.
Oh, pardon, c'est vous, enchanté.
Et ? Non, papa, je sais pas si tu comprends, mais il faut que tu saches.
Un petit scotch ? Et vous ? Du Porto ?
Non, merci, papa.
Tu sais qu'on m'a choisi les bottes de mémé dans la malle ?
Eh ben, justement, papa, je te parle de mémé. Mémé. Eh ben, mémé, elle...
Vous êtes même pas présenté ? Avec votre andouille ?
Oh, non, écoute, papa, ça suffit. Voilà, ta maman nous a quittés. Elle est décédée depuis hier, on va l'enterrer. Tu comprends ce que je te dis?
Mais l'enterrer, tu vas vite en besogne. Ces choses-là, ça se pense. Tu prends un torchon humide, tu le roules autour de la boîte, et en deux jours, tu le rattrapes.
Quoi?
Les cigares. Là, moi, je prends un petit scotch.
Voilà, c'était l'atout et le rire de Pierre Arditi.
Oui,
dans 3 jours et demi, c'est votre anniversaire. Eh oui.
Non,
donc, deux cadeaux.
D'abord, Au-delà des grilles de René Clément, qui sort en DVD, Blu-ray, DVD chez M6 Vidéo. C'est un film assez méconnu.
Ah, il est
de
totalement
René Clément
méconnu de ma part, en tout cas.
Et de Jean Gabin. Mais tant mieux, parce que c'est un film.
Comment s'appelle ça?
Au-delà des grilles. Ça se passe en Italie. Et c'est une sorte de film néo-réaliste français. René Clément Gabin. Mais avec Isa Miranda. Et qui s'inscrit dans ce courant-là du cinéma italien, c'est tout à fait étonnant. Il y a beaucoup de bonus très intéressants. Je le redis, donc c'est de 1951 et c'est chez M6 Vidéo. Là, vraiment, l'édition vidéo fait son travail quand elle nous permet de découvrir ce genre de perles.
Oui.
Et puis, on vous offre avec plaisir un film d'Alain Resnais qui n'apparaît pas forcément totalement dans sa filmographie. Ça s'appelle L'an 01. Ça a été écrit par GB.
GB, mais bien sûr.
Oui, et il a été écrit. Il a été écrit par GB, réalisé par Jacques Doyon, Jean Rouche et Alain René.
Je me souvenais pas, dis donc. Je l'ai vu le film.
Ben oui, et on vous l'offre. On vous l'offre à nouveau. Ben alors en Blu-ray DVD chez LCJ. Et dans le casting, tenez-vous bien, Cabu, Coluche, Cavana, Miu Miu, Gérard Junot, Gérard Depardieu, Thierry Liam Neeson et le professeur Choron. Voilà, bien une sûr. Très très belle
je
édition
très
de ce
bien
film.
Ça, très très bien.
Ouais, LCJ
génial,
édition.
Merci beaucoup.
Et quoi d'autre, Laurent?
Et quoi d'autre? Alors, on dit que, à l'occasion de l'anniversaire, la commémoration de Georges Brassens, ben, chez vos cousins des productions et éditions Jacques Canetti, il y a un 4 CD sur Georges Brassens qui vient de paraître. Et l'un des 4, c'est un nouveau CD, Brassens et son ami René Fallet, enregistré par Pierre Arditi. Voilà, on vous le dit, édition Jacques Canetti.
C'est effrayant.
Merci, Pierre Arditi.
Je fais le serment solennel d'écouter beaucoup plus la radio que je ne regarde la télévision aujourd'hui, super. C'est bien mieux.